Vous écoutez France Culture.
Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous.
Hey, you know what?
L'épreuve approche et nous sommes avec vous. C'est le début, cette semaine, de la deuxième semaine qu'en partenariat avec Philosophie Magazine et son guide de survie, les nouveaux chemins de la connaissance consacrent au bac philo. Cinq émissions, donc, rien que pour vous, chers élèves, où vos professeurs prendront le risque de subir eux-mêmes le pincem qu'ils infligent, la corvée dont ils vous accablent, la dissertation de philosophie. Demain, Nicolas Franck, qui enseigne à Neuilly-sur-Seine, viendra se demander si une conduite désintéressée est possible. Mercredi, Philippe Danino, professeur au lycée Buffon à Paris, se demandera si l'on peut penser sans préjugés. Jeudi, c'est Nathalie Chouchan, professeur en Cagne à Condorcet, qui se posera la question de la distinction entre l'homme et l'animal. Et vendredi, Violaine Chavanne, qui enseigne à Neuilly-sur-Marne, se demandera s'il faut n'avoir plus de désir pour être heureux. Enfin, c'est-à-dire pour commencer, Les Nouveaux Chemins accueillent ce lundi l'ami Charles Pépin, qu'on reçoit toujours avec le même plaisir sur France Culture, qui enseigne en terminale au lycée d'État de la Légion d'honneur de Saint-Denis, qui est le maître d'œuvre du guide de survie du bac philo, et qui vient, pour vous, plancher sur la question redoutable de savoir s'il faut trouver un sens à toute chose. Bonjour Charles Pépin.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Bienvenue de nouveau donc
Merci
sur France
de
Culture,
me recevoir.
Au Nouveau Chemin. C'est une joie comme toujours. Alors voilà, hein, on entame avec vous cette semaine sur le bac philo, cinq dissertations qu'on va essayer de corriger ensemble, ou en tout cas à partir desquelles on va essayer de proposer un corrigé, n'est-ce pas? Il y en a un, il pourrait y en avoir une infinité. Proposons un plan donc, et rigoureusement. Alors, voilà, je suis en terminale, je passe le bac, je veux bien faire, et voilà que pour mon malheur ou pour mon bonheur, le sujet que je choisis, c'est la question de savoir s'il faut vouloir trouver un sens à toute chose. J'ai juste cet intitulé et une copie blanche devant moi, 4 heures pour m'en occuper. Comment je fais ?
Alors, je dirais qu'avant d'appliquer une méthode un peu rigoureuse d'analyse des termes, il faut laisser aller les premières idées et les coucher sur le papier. Donc, s'écouter et puis se faire confiance et voilà, répondre directement, tout de suite, en 10 secondes. Parce que ces idées-là, les plus spontanées, elles ne reviendront pas si on passe le sujet à travers la moulinette de l'analyse des termes, de l'analyse sémantique, de l'analyse conceptuelle, de cet effort pour créer des tensions entre les termes et faire résonner le sujet du plus de façon possible.
Cet effort donc, d'analyse des termes, d'analyse sémantique, il est nécessaire, mais c'est un deuxième temps. Hein.
Voilà,
et l'autre chose également, peut-être qu'il faut préciser, c'est qu'il ne faut pas commencer par mobiliser les connaissances qu'on a sur ce sujet.
Exactement. C'est-à-dire que les auteurs ou les contenus de cours, on oublie pour l'instant, ça viendra dans un second temps, je dirais, pour remplir les trous d'un plan qu'on aura trouvé par sa pensée personnelle, par son questionnement personnel du sujet. Et vous inquiétez pas, ça viendra le moment venu. Et si ça vient pas, c'est même pas si grave que ça. Ce qui compte, c'est pas les références dans un premier temps, c'est d'entendre le sujet, je dirais, avant même de le comprendre, de l'entendre. Donc voilà, faut-il vouloir trouver un sens à toute chose ? On a des réponses spontanées qui vont venir. Par exemple, oui, parce que c'est être intelligent, ou non, parce qu'il y a des choses insensées. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas de sens et qui sont absurdes. Moi, tout de suite, là, je n'avais même pas pensé en préparant, mais je me dis, Auschwitz, ça a un sens ? Voilà, on peut dire ça ? Ça me paraît discutable. Donc je le note tout de suite. Je ne me pose pas de questions, je note ce qui vient. Et puis,
c'est très intéressant d'ailleurs de commencer une dissertation sans se poser de questions. Justement.
Voilà, je pense que c'est un bon conseil à donner aux élèves.
Savoir maintenant, ne pas se poser de questions, ça ne dure pas. Hein, mais
non, je dirais que c'est 40 secondes, quoi, 30 secondes. On y va, on se laisse aller. Et puis ensuite, on va très vite être sec. Ça va être fini, quoi, ce côté spontané où on a quelque chose à dire. Et c'est là qu'il faut commencer à appliquer la méthode. Alors la méthode, je dirais qu'il y a deux aspects essentiels. Il y a analyse sémantique, donc voilà, on joue avec les mots, que veulent dire les mots. Et puis il y a, plus philo, analyse conceptuelle. Donc là, par exemple, faut-il vouloir trouver un sens à toute chose ? Bien, une fois qu'on a jeté les premières idées, donc j'en ai jeté deux tout à l'heure, voilà, on va s'arrêter là. Hein. à savoir oui, parce que donner un sens, on va dire que c'est à la fois, sans pour l'instant distinguer, c'est à la fois comprendre ou interpréter. Et a priori, ça ressemble à quelque chose qui est bien, quoi. C'est bien, c'est peut-être le propre de l'humain de vouloir comprendre.
Ça permet aussi de mettre en ordre, par exemple, des choses qui, à premier abord, nous semblent chaotiques.
Voilà. D'ailleurs, quand vous dites mettre en ordre, ça me fait penser à l'idée de jugement. Juger, c'est repérer un ordre dans le désordre, dans la diversité. Donc, on voit qu'il y a tout un côté de la réponse positive qui apparaît, qui est en gros oui, parce que c'est bien de comprendre, d'interpréter, de donner du sens, de ne pas être un animal qui reçoit le monde sans le questionner. Maintenant, il faut passer à l'analyse des termes plus sérieuses. Donc c'est vrai que...
Pardonnez-moi, Charles Pépin, dans l'analyse des termes plus sérieuses, est-ce qu'il ne faut pas que toute l'attention, en tout cas une partie de l'attention, soit requise par le verbe vouloir ? Vouloir,
oui.
Parce que c'est pas la même chose. Que, ça aussi, c'est important, je crois, hein, de le rappeler, ouais, pour les élèves. Des intitulés de dissertation peuvent se ressembler sans être les mêmes. Un élève peut avoir traité dans l'année, faut-il trouver du sens à toute chose, par exemple.
Oui, tout à fait. Ou alors, pire encore, toutes les choses ont-elles un sens ? Et là, c'est le hors-sujet assuré. Car le sujet n'est pas du tout « toutes les choses ont-elles un sens ?», ce qui serait un sujet, au fond, métaphysique. Le sujet, c'est faut-il vouloir en trouver un à toutes les choses ?
Autrement dit, c'est un sujet anthropologique.
Oui, ou même, je dirais, existentiel. On est sur un plan existentiel et pas sur un plan métaphysique. On n'est pas sur le plan de la vérité des choses et du monde. On est sur le plan de qu'est-ce qui est bien pour vivre une bonne vie humaine, pour vivre une vie digne de l'humain. Est-ce que c'est de vouloir trouver un sens à toutes choses ? Ou alors, est-ce que c'est une autre attitude que pour l'instant, on ne va pas défricher ? On comprend bien que, moi, ce que j'appelle la problématique, c'est ce vers quoi l'introduction doit tendre, c'est un conseil que je donne souvent aux élèves, une alternative carrée, je dirais, à deux branches, quoi, enfin comme toute alternative d'ailleurs, entre deux réponses à la question.
Rappelons à cette occasion d'ailleurs que « alternative » ne signifie pas un des termes de l'alternative. Une alternative, c'est un carrefour.
Voilà, c'est la patte d'oie, quoi. Voilà.
Quand on parle, par exemple, d'alternative libertaire, ça n'a pas de sens, puisqu'il s'agit de parler d'une alternative, c'est-à-dire d'un choix entre deux options.
Voilà, hein. Tout à fait. Donc l'alternative, c'est libertaire ou républicain. Donc c'est le choix entre A ou B. Donc que les élèves comprennent bien que c'est déjà excellent de réussir à poser en introduction l'opposition de deux réponses à la question, toutes deux séduisantes et en gros opposées, quoi. Moi, c'est ce que j'appelle une problématique, ça suffit très bien pour le bac. Donc là, on va essayer de la trouver ensemble. Et pour la trouver, il faut analyser les termes. Donc vous dites vouloir, c'est effectivement très important. Vouloir, en gros, est-ce qu'il faut vouloir trouver un sens à toute chose ? Ou alors, est-ce qu'il faut ne pas vouloir ? Donc penser que c'est pas bien de trouver un sens à toute chose. Mais aussi, est-ce qu'il faut peut-être le trouver sans vouloir le trouver ? C'est aussi ça le sujet. Autrement dit, peut-être que vouloir le trouver, c'est pas la meilleure façon de le trouver. C'est une réflexion que m'inspire l'attention que vous portez à ce verbe « vouloir ». On sait bien dans la vie humaine que souvent on trouve les choses quand on ne les cherche pas. Et que si on les cherche, on ne les trouve pas. Par exemple, si on vous dit « allez absolument au musée d'Orsay voir telle toile de Manet, elle est très belle », si vous y allez et que vous avez en tête tout ce qu'on vous a dit sur elle, vous risquez fort en vous trouvant devant la toile de pas trouver l'émotion esthétique. Alors que si vous marchez au hasard du musée et que hop, vous êtes arrêté par la beauté d'une toile, alors vous allez trouver la beauté.
C'est une expérience proustienne d'ailleurs au passage, hein, puisque la rencontre par exemple du narrateur dans La Recherche du Temps Perdu avec Bergotte ou avec la Berma, avec tous ces personnages importants de la recherche, est une rencontre qui est toujours pour le narrateur d'abord l'occasion d'une déception qui vient justement parce que cette rencontre a été précédée de tous les éloges qu'il ne retrouve pas immédiatement chez les êtres qu'il croise.
Exactement. Donc là, on se permet de tourner autour de l'expression « faut-il vouloir trouver ?» Et j'insiste, vouloir trouver n'est peut-être pas la meilleure façon de trouver. Par ailleurs, un des enseignements de la psychanalyse, et puis on peut en parler, puisque la psychanalyse, elle est quand même visée par le sujet. Hein. La psychanalyse, c'est une des façons de rentrer dans le sujet. Elle nous dit qu'il faut chercher le sens de la maladie pour essayer de la guérir, ou chercher du sens, alors que les médecins non psychanalystes, les médecins plus matérialistes, cherchent juste les causes. Donc là, tiens, distinction conceptuelle importante. Trouver un sens, c'est pas trouver la cause. Et on retrouve une distinction conceptuelle du programme de terminale, qui est que expliquer, c'est trouver les causes. Interpréter, c'est chercher le sens. C'est trouver le sens même. Donc là, c'est important. C'est vrai que là, ça peut servir d'avoir eu un bon cours et d'avoir appris des distinctions conceptuelles comme celle-là qui est au programme.
Alors, pour donner aussi une autre image, par exemple, c'est la différence que fait Spinoza entre l'ouvrier et l'architecte, en somme. Hein. Pour la fabrication d'une maison, le maçon est indispensable à la construction de la maison car sans lui, il n'y a pas de briques. En revanche, l'architecte étant l'auteur du plan serait plutôt dans la position de celui qui donne un sens justement à cette entreprise.
Voilà, qui donne un sens, qui donne une direction. Et puis, bien sûr... Donc, quand on dit qu'il donne un sens, qu'il interprète, bah, ça veut dire qu'il y a plusieurs façons d'interpréter, par définition. Et du coup, c'est un paradoxe du sujet. C'est que un sens, c'est pas une cause, mais un sens, c'est pas non plus plusieurs sens. Et là, le sujet commence à être intéressant. Parce que faut-il vouloir trouver un sens à toute chose ? Bon, déjà, on va devoir analyser toute chose, mais pour l'instant, intéressons-nous au mot un sens. Il faut faire une analyse sérieuse. Un sens, pour bien analyser, il faut l'opposer, au contraire, donc pas de sens. Et il faut aussi le distinguer de plusieurs sens. Donc, pour répondre oui, il va falloir y aller franchement, quoi. Ça va être dur de répondre oui, on le voit tout de suite. Parce que ça veut dire qu'il va falloir dire que oui, il faut vouloir trouver un sens à toutes les choses du monde, humaines ou non humaines. C'est-à-dire que refuser la possibilité qu'elles soient insensées ou absurdes, mais aussi les réduire à un sens alors qu'elles ont peut-être plusieurs sens. Je vous donne un exemple. Vous avez un homme qui dit à une femme qu'il veut se marier avec elle. Et il a son visage traversé par un rictus. C'est une chose humaine. Une sorte de grimace ou d'expression bizarre. Voilà une chose humaine. Est-ce que ça a un sens ? Probablement, ça a plusieurs sens. Il est à la fois amoureux, inquiet, angoissé, il a peur de la réaction, il se livre. Enfin, ça a plusieurs sens.
Peut-être même qu'il ne veut pas l'épouser.
C'est bien sûr ce que je suggérais comme étant appartenant au champ des possibles. Par opposition à ça, est-ce que ça a un sens une chose non humaine, par exemple une pierre qui tombe ? Est-ce que ça a un sens ? Peut-être pas. Peut-être que ça a juste une cause.
Voilà.
Du coup, là, le sujet commence à s'éclairer. Et il faut donc distinguer un sens, pas de sens, plusieurs sens. Au brouillon, comme ça, on fait une... Je vous conseille d'entourer le terme du sujet avec un rond et d'envoyer trois flèches dans trois directions pour que ce soit bien clair. On éclate le terme en trois acceptions. Et puis de même, ce qu'on vient de voir, c'est que les choses, il faut distinguer au moins... les choses humaines et les choses de la nature. Les choses humaines, les désirs, les choix, les passions, les paroles, les décisions, la politique, la foi, voilà. Et puis, les choses non humaines, le verre d'eau, les lunettes, la pierre, les lois de la nature. Et on a donc l'idée que la réponse à la question va varier en fonction du sens retenu du mot « chose ».
Oui, puisque l'identification d'une intention est évidemment plus simple à faire, sinon d'ailleurs seulement à faire, en matière humaine. Alors qu'en matière de nature, on peut se demander pourquoi à l'infini, sans jamais trouver de réponse.
Alors, donc, tout à fait, puisqu'on distingue « chose humaine » et « chose non humaine », à chaque fois, le conseil que je donne, c'est dès qu'on a trouvé une bonne distinction, on repose le sujet dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on ne lâche jamais le sujet. On colle au libellé. Donc, il ne faudrait surtout pas croire qu'on va s'éparpiller dans des distinctions sémantiques ou conceptuelles pendant trois quarts d'heure, et puis après dire « alors qu'est-ce que je réponds au sujet ?» Non, il faut être plus, je dirais, plus bourrin. Dès qu'on a une idée, on voit ce que ça apporte comme réponse à la question. Donc là, on vient de distinguer, faut-il vouloir trouver un sens à toute chose, les choses humaines, où a priori on a envie de dire oui, ça s'interprète, l'humain, et donc on cherche le sens, donc comme vous l'avez bien dit, les intentions des hommes. Et puis les choses naturelles, dont la science moderne nous dit, il faut arrêter de chercher le sens, il faut chercher les causes.
On sent en filigrane, pardon, hein, Charles Pépin, là encore, je vous interromps, mais parce qu'on
vous
discute,
avez raison,
hein, mais
ouais.
On sent en filigrane aussi l'hypothèse peut-être à venir de l'idée selon laquelle si on trouve un sens aux choses qui ne sont pas humaines, c'est peut-être par... exportation ou extension du registre humain de l'intention aux choses naturelles elles, n'en ont pas forcément une.
Exactement. Alors là, on est dans le vif du sujet. De toute façon, il faut être dans le vif du sujet dès l'intro, parce que le correcteur, c'est ce qu'il lit essentiellement, et si c'est bien, il est séduit, si c'est pas bien, les ennuis commencent.
On ne dira jamais assez l'importance de l'introduction.
Ouais. Et donc, moi, je pense qu'il faut au moins une heure pour arriver à écrire l'intro correctement. Mais donc, ce que vous dites est très intéressant. Il y a une tendance des penseurs, des philosophes, de certains sociologues, à exporter l'attitude de la science exacte, où on ne cherche pas le sens, mais on cherche les causes, dans le domaine des choses humaines. Par exemple, Durkheim, le sociologue, disait « il faut prendre les faits sociaux comme des choses ». Ça veut dire qu'il va analyser la société, l'église, l'école.
Comme un médecin pourrait analyser un corps.
Ouais, ou même comme un physicien pourrait analyser la chute d'une pierre. Dans ce cas, eh ben, on va pouvoir répondre oui. Non, on va pouvoir répondre non au sujet. Il faut jamais chercher le sens, il faut toujours chercher les causes. Et puis, il n'y a pas... Donc ça, c'est intéressant. Parce que si on s'arrête à la distinction, on va répondre non. On va dire qu'il faut chercher le sens des choses humaines. Et par contre, pour les choses non humaines, il faut chercher les causes et pas le sens. Ça, c'est d'ailleurs le message de la science moderne. Sachez que, enfin, vous savez sûrement, mais il faut le rappeler pour tout le monde, que la science moderne, elle s'est arrachée à la science, notamment aristotélicienne, qui ne visait pas à expliquer les choses de la nature par les causes, mais par le sens. Aristote disait, la nature ne fait rien en vain, donc si je veux comprendre comment la plante pousse, il faut que je comprenne pourquoi elle pousse. Bref, quel est le sens de la plante sur Terre ?
C'est une distinction d'ailleurs qu'on n'a pas évoquée, mais qui peut-être résume bien la différence entre le sens et la cause. C'est la différence entre le pourquoi et le comment.
C'est exactement ça, on parle de ça. Chercher le comment, c'est chercher à mettre en évidence les causes, et chercher le pourquoi, c'est poser la question du sens. Et donc, comme vous le disiez, je reprends votre idée, il y a une tentation des philosophes, de certains philosophes ou de certains sociologues, de penser les choses humaines comme les choses de la nature. Et donc, de ne jamais vouloir en fait trouver le sens, de d'abord vouloir trouver les causes. Par exemple, et là on va tomber dans le programme de Terminal, que fait Hegel dans sa philosophie ? Eh bien, il la pense, il l'ambitionne comme science exacte. C'est-à-dire qu'il veut nous montrer que l'histoire, elle a du sens, certes, mais son sens, c'est sa cause. Donc, Hegel, quand il nous parle du sens de l'histoire, il l'explique. Il ne l'interprète pas, il ne propose pas une interprétation. Dans La raison dans l'histoire, dans tous ses livres, Hegel, il propose de démontrer la vérité du monde. Autrement dit, il propose d'expliquer le monde, Dieu, l'histoire. Et de même, Spinoza, il fait pareil. Hein. Spinoza, il veut expliquer le monde dans l'éthique. Il a même une ambition géométrique, ou on va dire scientifique. Donc là, on va avoir une réponse intéressante au sujet, qui est en fait... de refuser la distinction chose humaine, chose naturelle, en disant il y a une façon de concevoir les choses humaines comme des choses naturelles, à savoir de vouloir les expliquer avant tout et non pas les interpréter.
Ça, s'il y a un texte pour ça, hein, c'est le passage, c'est le début de la troisième partie de l'éthique dans laquelle Spinoza se propose d'expliquer les passions humaines comme s'il était question de lignes, de plans et de solides,
voilà.
De fabriquer une géométrie des passions humaines.
Tout à fait. Donc là, par rapport à la construction progressive du plan, soyons honnêtes, on ne sait pas trop comment faire. Parce que soit on prend ces philosophes, en fait, dont on vient de parler, Spinoza et Hegel, pour dire oui, parce qu'en vérité, ils cherchent quand même le sens des choses, simplement le sens chez eux se réduit à la cause. Soit on est plus fourbe, et en fait, on va les utiliser pour dire non. Et c'est là que le sujet s'avère difficile, en fait. Parce que trouver un sens et trouver une cause... c'est parfois la même chose. Et en plus, il y a des penseurs qui veulent penser les choses humaines comme des choses de la nature. Eh bien, arrêtons-nous sur cette difficulté, c'est ça la méthode. Au lieu de surfer dessus et de passer à autre chose, il faut le dire tout ça. Il faut oser s'exprimer et dire, voilà, on a un problème, le sujet est en fait, le sujet est vraiment dur. D'abord, il y a beaucoup de termes, et ensuite, il est très difficile d'y répondre clairement. Il faut le poser, il faut savoir s'arrêter comme ça sur la difficulté et ne pas vouloir à tout prix la simplifier, en fait. Donc, je n'ai pas envie, pour l'instant, de donner un plan
aucun
très clair.
Aucun correcteur n'en voudra à un candidat d'assumer la difficulté du sujet. En revanche, il se peut très bien qu'on trouve qu'un candidat passe trop rapidement, justement, sur cette difficulté, l'élude au motif qu'elle l'embarrasse. Ouais. Dans une dissertation de philosophie, il s'agit aussi de manifester la complexité de quelque chose, de ne pas la refuser.
Exactement. Et dans cette optique, je vais donc insister sur ce qu'on disait avec Hegel, Spinoza ou Durkheim. Ça veut dire quoi, en fait ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Hegel ? Quand il nous montre, par exemple, que l'histoire de l'humanité obéit à un destin qui est la réalisation de l'esprit, c'est-à-dire de la liberté, et qui va triompher dans le droit à la fin de l'histoire.
Pardonnez-moi, Charles Pépin, juste avant de partir dans les considérations sur Hegel, ouais, et sur la raison dans l'histoire, est-ce qu'on peut, en peu de termes, puisqu'après tout, c'est la question à laquelle il s'agit de répondre, formuler la problématique ?
Je dirais que j'en suis pas là. Enfin, on va le faire dans 2 minutes. Mais pour la formuler, il faut avoir clarifié une alternative. Et je pense qu'on va le faire exactement tout de suite parce que je dirais que ça reviendrait, si on respecte le timing, à dire que l'intro, voilà, si on fait ça, on va avoir une problématique dans une intro qui fait 8 lignes, 10 lignes, et c'est pas bon. Je pense que l'intro, elle doit tendre vers une page entière, où en fait on a posé tous les enjeux et puis on s'est arrêté sur la complexité. Mais j'y viens quand même tout de suite, je vous rassure. Ce que je disais avec Hegel, c'est la chose suivante. Posons franchement la question. Est-ce que Hegel, lorsqu'il nous démontre que l'histoire va dans une direction, dans un sens, mais que ce sens s'explique par une causalité unique au sens scientifique, est-ce que ça veut dire qu'il nous dit qu'il faut trouver le sens du monde, de l'histoire, ou est-ce que ça veut dire qu'il ne nous dit pas qu'il faut le trouver, puisque, en fait, il nous le donne? C'est ça que je voudrais faire comprendre aux auditeurs et aux élèves. C'est que trouver, ça a deux sens très différents, encore une fois. C'est pour ça qu'on ne peut pas problématiser tout de suite. Soit trouver, c'est le fruit de notre recherche personnelle de philosophe ou de penseur. C'est à soi de trouver le sens des choses.
Soit le sens est quelque part et il s'agirait juste de l'exhumer.
Exactement. Soit c'est pas à nous de le trouver. On nous le donne, on nous le délivre, comme la religion. Et dans ce cas-là, on l'a trouvé, mais pas au sens où on l'a trouvé par un effort personnel. On l'a trouvé parce que autrui nous l'a révélé. De ce point de vue-là, la religion, elle révèle le sens du monde et de la vie humaine. Et donc nous, si on y croit, on le trouve, mais pas en ayant cherché comme Socrate, par exemple, qui cherche lui-même tout seul le sens des choses par son questionnement.
En somme, dans un cas, c'est nous qui le trouvons, dans l'autre, c'est le sens qui nous trouve.
Exactement. Mais dans tous les cas, on peut répondre oui, il faut vouloir le trouver, dans les deux sens du verbe trouver, et c'est là qu'il faut se demander pourquoi on répondrait oui. Parce que peut-être on a une vie plus apaisée. Et c'est ça qui nous permet de problématiser. Parce que peut-être on a une vie plus humaine. Parce que peut-être on a une vie moins angoissée. Et c'est là qu'on va avoir l'idée d'un rebondissement. Et donc j'arrive à votre réponse, à votre question sur la problématique. Qu'est-ce qu'on peut opposer à cette idée qu'il faudrait vouloir trouver le sens des choses pour être heureux, pour être humain, pour être apaisé? Eh bien peut-être l'idée qui vient quand on questionne que c'est dangereux, parce que si on veut trouver le sens des choses et qu'on ne le trouve pas, on peut être déprimé ou désespéré, que c'est dangereux, parce que si on veut toujours trouver un sens à toutes les choses, mais qu'en fait, notamment les choses humaines, elles en ont plusieurs, on va rater leur vérité, leur épaisseur, leur ambiguïté.
En somme, on va enfermer les choses dans une univocité, hein, dans un sens unique, c'est-à-dire qu'il y a plus dangereux encore que de ne pas trouver le sens, c'est de l'imposer.
Alors, effectivement, vous avez compris le troisième danger, c'est que si on croit l'avoir trouvé, on peut être tyrannique, intégriste,
dogmatique, tout
dogmatique, violent, parce que avoir trouvé le sens, ou même un sens, c'est pas rien. Et si vraiment on est sûr de l'avoir trouvé, comment supporter que l'autre n'accepte pas ce sens? Donc là, ça commence à se clarifier. D'un côté, la tentation d'une réponse positive, oui, il faut vouloir trouver un sens à toutes les choses, soit qu'on le trouve nous-mêmes à la Socrate, qu'on le cherche nous-mêmes, soit que Hegel ou la religion ou Spinoza nous disent le sens, c'est ça. Et on répondrait oui parce qu'en fait, cela nous permet de mieux vivre, notamment d'accéder chez Spinoza à la béatitude, d'accéder, d'après, si on est croyant, à une forme de vie apaisée avec soi et avec le monde. Et de l'autre côté, la réponse négative, en fait, non, parce que c'est dangereux. Et on vient de serrer trois types de dangers. Le premier, c'est on veut le trouver, on le trouve pas, on est malheureux. Le deuxième, c'est on veut en trouver un et on réduit la beauté du monde humain, la richesse et la complexité à un seul sens, alors que ça en a plusieurs. Souvenez-vous de la grimace de Marie qui demande sa femme en mariage. Et troisième danger, ce que vous disiez, si on est sûr de l'avoir trouvé, alors on peut vouloir l'imposer. Et c'est le risque de la violence, de l'intégrisme ou du fanatisme.
Trois dangers donc, malheur, univocité et dogmatisme.
Exactement. Et là, on peut enfin poser la problématique, très simplement, sous la forme d'une alternative, une question avec au milieu un « ou » et à la fin un gros point d'interrogation que le correcteur identifiera en un regard comme étant à la fin de l'intro le problème de la question, que je peux vous énoncer si vous voulez. Faut-il, en effet, vouloir trouver un sens à toutes les choses, entre virgules, humaines comme non humaines, pour accéder à une vie heureuse, apaisée ou simplement digne de l'humain, ou au contraire renoncer à cette ambition en raison du danger qu'elle comporte?
Et là, à partir de là, cette question-là, je la reformule une fois, faut-il vouloir trouver un sens à toute chose, qu'elle soit humaine ou non, en vue d'une vie heureuse, ou bien renoncer à trouver un sens au motif des dangers qu'une telle entreprise comporte? C'est la question, c'est le fil directeur, c'est ce qu'on doit garder en tête en permanence dans la dissertation jusqu'au moment de la conclusion, c'est-à-dire d'y répondre.
Exactement, car comme vous le dites très bien, un jour, il faudra répondre. Là, je n'arrête pas de dire il faut questionner, il faut s'arrêter sur les termes, mais à la fin, il faut répondre. Il faut s'engager. On ne fait pas que questionner. Et je dirais un point important de méthode. Là, on vient de poser la problématique. C'est une alternative. On se doute que dans cette alternative, bah, y a deux branches, mais on va faire un plan en trois parties. Donc, question, est-ce qu'il faut annoncer le plan ? Alors, c'est comme vous voulez, je dirais, simplement. Deux des parties sur trois sont déjà annoncées dans la problématique. Donc, il va y avoir plusieurs types de plans possibles. On a une problématique, c'est A contre B. Il y a un plan que je recommande aux élèves parce que ça les oblige à bien réfléchir, c'est d'examiner d'abord la piste A, ensuite de critiquer la piste A, et après de s'engager sur la piste B. Ce n'est donc pas un plan thèse-antithèse-synthèse, c'est un plan thèse-critique de la thèse, donc antithèse. Ou alors antithèse-critique de l'antithèse, donc thèse. Ça, c'est un plan que je conseille aux élèves qui sont un peu perdus en type de plan, parce que ça marche à tous les coups, ça oblige à avoir une vraie partie d'articulation en deuxième moment, et donc à ne pas être descriptif et à penser vraiment.
Je ne sais pas pourquoi la pluie quitte là-haut ses oripeaux, que sont ces lourds nuages gris pour se coucher sur nos coteaux. Je ne sais pas pourquoi le vent s'amuse dans les matins clairs à colporter ses rires d'enfants, carillons frêles de l'hiver. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi la route qui me pousse vers la cité a l'odeur froide des déroutes de peuplier en peuplier. Je ne sais pas pourquoi le voile du brouillard glacé qui m'escorte me fait penser aux cathédrales où l'on prie pour les amours mortes. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore.
Chanson magnifique de Barbara pour ponctuer cette conversation en votre compagnie. Charles Pépin, c'est avec vous qu'on commence cette émission, cette semaine, sur le bac philo dans les nouveaux chemins de la connaissance. Faut-il vouloir trouver un sens à toute chose ? C'est l'enjeu du jour, c'est la question du jour. Pour l'heure, on en est donc à la problématique, au plan. On les a obtenus, hein, pour mémoire, la problématique. Faut-il vouloir trouver un sens à toute chose, humaine ou non humaine, en vue d'une vie heureuse, ou bien renoncer à trouver un sens au motif que, à vouloir trouver un sens, au motif qu'une telle ambition peut provoquer malheur, univocité ou bien dogmatisme. À partir de là, on a le plan dont on a compris que chez vous, il repose sur l'exposé d'une thèse, la critique de cette thèse, puis l'exposé d'une contre-thèse éventuelle qui viendrait clore ce travail. Voilà. Allons-y dans le plan.
Donc c'est un plan possible. Alors allons-y. Un dernier conseil avant d'y aller, c'est que il faut se dire qu'est-ce que j'ai envie de défendre. Ce que j'ai envie de défendre, je mets à la fin. Et donc je commence par l'opposé de ce que j'ai envie de défendre pour ainsi rebondir en critiquant ce que j'aime pas et arriver à ce que j'ai envie de défendre. Du coup, vous l'avez compris, j'ai envie de défendre ce que dit Barbara dans sa chanson, à savoir que les choses humaines, on n'arrive pas à accéder à la réponse. Pourquoi ? Quel est leur sens ? C'est trop compliqué, c'est trop équivoque. Du coup, je vais commencer par essayer de répondre. Oui, évidemment. Mais on pourrait dire la tentation du oui. Voilà. Oui, on pourrait être tenté de répondre oui. Alors là, très simplement...
Vous allez commencer par là, puisque vous allez finir par dire le contraire.
Exactement. Donc voilà, je suis un peu stratège. Je ménage mes effets et je garde le meilleur pour la fin. Ce que j'ai envie de défendre, quand j'aurai plus beaucoup de temps, il faut que je sois fidèle à moi-même, il faut que j'y aille franchement. Et il faut que tout mon devoir mène à ma conviction.
Sachant que le correcteur ne nous juge pas sur le fond de ce qu'on dit. Mais non. Sur la cohérence avec laquelle on l'expose.
Voilà, sauf que la cohérence, elle sera renforcée si on finit par ce qu'on a envie de dire. Alors, donc oui, il faut vouloir trouver un sens à toutes les choses parce que l'animal humain ne se contente pas de vivre, il cherche le sens de ce qu'il vit. Voilà, oui, parce que c'est un mode d'existence humain et pas animal, une présence au monde humaine et pas animale. Et là, je dirais qu'on mélange un peu comprendre et interpréter. Au début, on est un peu vague. On dit que l'animal humain est marqué par une forme d'insatisfaction par rapport à ce qu'il vit. Il ne se contente pas de le vivre. Il veut plus. Et ce plus, c'est le sens. Et on peut donc dire que la philosophie, c'est ça, hein, justement. C'est de vouloir trouver le sens des choses. Ce sens qui peut être caché par les apparences, par les illusions, par les préjugés, par les opinions. Et on peut même commencer assez classiquement par Socrate, en disant que c'est ce qu'il fait, lui. Il veut... trouver le sens des choses et aider les autres à le trouver en leur posant des questions. Et que la maïotique socratique est un exemple, nous appuyant une réponse positive à la question. Voilà. Et que la bêtise, c'est de ne pas chercher le sens des choses. Voilà. La bêtise, c'est de ne pas se poser de questions.
C'est finalement de s'en tenir à la surface.
Exactement. De s'en tenir à ce qu'on vit sans le questionner. Et que de ce point de vue-là, il est difficile de refuser une réponse positive. Chercher le sens, c'est être humain, en fait. Voilà. Donc voilà, on prend la philosophie comme exemple. Et puis je propose de prendre aussi la psychanalyse et la religion.
Juste une petite chose. Vous avez dit chercher le sens, mais peut-être faut-il se méfier d'une confusion éventuelle entre chercher un sens et vouloir le trouver. Car après tout, vouloir le trouver, c'est aussi peut-être à un moment, si on ne le trouve pas, l'imposer. Tandis que si on le cherche honnêtement et qu'on ne le trouve pas, on ne cherchera pas à l'imposer. Donc il faut D'accord. peut-être ici distinguer les deux termes.
Alors je crois que pour s'en sortir, on peut dire que vouloir trouver, entre guillemets, ça signifie chercher en fait. Et comme ça, on commence, je dirais gentiment, par faire l'éloge du philosophe qui cherche la vérité en étant conscient qu'il ne la trouvera peut-être pas, à la Socrate donc. Par ailleurs, au XXe siècle, la psychanalyse, dans une certaine optique, prolonge cette démarche en disant effectivement que pour guérir la maladie du sujet, eh bien, il faut s'interroger sur le sens de ses symptômes et non pas simplement, comme le font les médecins matérialistes, chercher les causes.
Socrate surmonte les phénomènes, la psychanalyse surmonte les symptômes.
Exactement. Et les médecins, certains qui sont en quête de causes, échouent à guérir des maladies psychiques que la psychanalyse en quête du sens des choses parvient à guérir. Voilà, donc on commence comme ça, on pose différentes activités humaines, philosophie, psychanalyse, et puis aussi, je dirais, la religion. Hein. La religion, comme on l'a évoqué tout à l'heure, eh bien, elle propose un sens aux choses humaines, elle propose aussi un sens aux choses de la nature d'ailleurs. En fait, elle nous donne le sens des choses, elle nous le révèle. Là, c'est un autre sens de trouver, mais c'est quand même une réponse positive. C'est que oui, il faut vouloir le trouver avec Socrate, à savoir il faut vouloir le chercher soi-même. Oui, avec la psychanalyse, il faut s'interroger sur le sens que ça permet de guérir. Oui, avec la religion, sauf que c'est en un autre sens de trouver. Là, on trouve quelque chose qu'on nous révèle. On ne le trouve pas tout seul par sa démarche de recherche, mais quand même, on le trouve. Et on répond clairement que ça peut être apaisant, quand on croit en Dieu, eh bien, de voir le sens de la vie humaine révélé par la religion. On peut même développer un peu en disant que avoir ainsi trouvé le sens du monde peut permettre de bien se comporter par rapport à autrui, si on est croyant dans une certaine optique chrétienne, et que du coup, le « il faut » a un sens moral. Oui, il faut vouloir trouver un sens à toute chose, parce que, dans une logique chrétienne, lorsqu'on l'a trouvé, eh bien, on se comporte mieux avec autrui, et on peut penser que la foi mène à un comportement moral. Comme ça, on assume le « il faut » dans son acception morale. On n'avait pas eu le temps de le voir en intro, mais le « il faut » a plusieurs sens, et dans le cas de cette première partie, où on répond « oui », on va essayer de lui donner plusieurs sens. Soit, comme je l'ai dit au début, oui, il faut vouloir trouver un sens aux choses parce que ça nous rend pleinement humains, parce que ça nous permet de développer nos facultés, l'intelligence, mais aussi le langage, qui est ce par quoi l'homme donne un sens au monde. Mais aussi, oui, il faut en un sens moral. Parce que quand on a trouvé le sens des choses que la religion nous révèle, alors on respecte autrui comme une fin et pas comme un moyen et on se comporte bien. Donc, le point commun de cette réponse positive, c'est de dire l'éloge en fait de l'interprétation. Car dans tous les cas, donner du sens, c'est interpréter. Ce n'est pas vraiment expliquer. C'est alors qu'on peut, en guise de transition, dire ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. Que les philosophes, on vient d'évoquer la philosophie pour répondre oui, mais qu'il y a des philosophes comme Hegel ou Spinoza, donc on en a parlé, qui eux veulent précisément démontrer le sens de ce qui est, et donc poser la question. Est-ce que avec ces philosophes-là, on a encore une réponse positive. On peut être tenté de dire oui en reprenant la problématique. Oui, parce que ça nous apporte une vie heureuse, une vie apaisée, ou même une vie plus qu'heureuse. Pensez à Spinoza. C'est quoi la béatitude du sage spinoziste, ce qu'il appelle la connaissance du troisième genre? C'est le bonheur ultime de celui qui comprend le sens et les causes des choses.
J'allais vous dire, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Malheureusement, ça n'est pas une émission sur Spinoza, mais il me semblait davantage que Spinoza était de ces philosophes qui, justement, déconstruisaient la possibilité d'un sens au motif que c'est, en tout cas, qui séparait rigoureusement le fait que ce soit les humains qui cherchent un sens, puisqu'après tout, c'est la mesure de leur finitude, ouais. Alors que la nature en elle-même n'a pas de sens, puisque, comme il le dit, hein, la réalité et la perfection, c'est-à-dire l'achèvement, sont une seule et même chose. Et qu'en somme, sommes finalement. L'ambition de trouver un sens n'est que l'expression chez nous du manque dont nous faisons l'expérience et qui, en aucun cas, ne concerne la nature ou alors qui ne concerne la nature que parce qu'on la prend pour nous-mêmes. Oui, pour Hegel, c'est un peu différent. Et il y a plus de finalisme dans le discours hegelien que dans le discours spinoziste.
Alors, je propose, pour simplifier, de bien entendre ce que vous venez de dire et justement d'utiliser Spinoza comme transition pour bien distinguer les choses de la nature qui visent à être expliquées, des choses humaines qui peut-être s'interprètent, et pour arriver comme ça, pour aller vers la deuxième partie où on va répondre non, et on va clairement distinguer les choses de la nature par rapport à quoi on doit chercher les causes, et les choses humaines qu'on doit chercher à interpréter en cherchant le sens. Alors, comment on fait une transition hein ? Eh bien, on essaye de radicaliser la thèse de la partie 1, pour en montrer la contradiction interne et montrer qu'on doit avancer.
Montrer ses limites.
Donc on ne fait surtout pas de transition descriptive, on dit maintenant on va voir ça. Il faut faire une transition nécessaire, montrer au correcteur qu'on ne peut pas ne pas avancer.
De façon générale d'ailleurs, il ne faut pas commenter sa propre démarche. Nous allons en introduction, voilà, en conclusion, nous allons dire tout ça est parfaitement inutile. Une bonne typographie suffit tout à fait pour le correcteur à comprendre le lieu où il se trouve.
Voilà, donc il ne faut pas commenter du point de vue formel. En revanche, il faut revenir sur ce qu'on a dit pour en montrer la contradiction interne. En l'occurrence, on a défendu une réponse positive en faisant en fait l'éloge de l'interprétation. Voilà, l'interprétation du psychanalyste qui va guérir le patient, ou même du patient lui-même, l'interprétation des prêtres qui interprètent la parole de Dieu pour aider les hommes.
Et en fait, qui, face à un deuil, disent « c'est la volonté divine, par conséquent, consolez-vous ».
Exactement. Donc on a bien assumé le côté de la problématique où on dit « oui, il faut pour être heureux, pour être apaisé, pour avoir une vie humaine ». Simplement, on peut montrer que si on radicalise, on arrive à un sens qui va être délivré par la religion ou qui va être démontré par la philosophie hegelienne. Et dans ce cas-là, que nous reste-t-il à interpréter ? Or, ce qui faisait le sel de notre partie 1, c'était quand même l'éloge de l'interprétation. Donc on peut dire, si le sens nous est délivré par la religion ou démontré par la philosophie, que nous reste-t-il à interpréter ? Et là, on va distinguer ce qu'il nous reste à interpréter, les choses humaines, les désirs, les passions, les choix, et ce qu'il faut vraiment expliquer comme la science moderne nous le demande, les choses de la nature. La partie 2.
En somme, vous préservez ici, chez Socrate comme chez le psychanalyste, plus peut-être d'ailleurs que dans la religion, le fait que la quête d'un sens chez Socrate ou chez le psychanalyste se double aussi de l'idée du secret, finalement, qu'on ne le trouvera pas vraiment complètement.
Bien sûr.
Vous vous servez,
je ménage la partie 3.
Vous ménagez la partie 3. Exactement. Vous vous servez du fait, vous vous servez non pas de l'ambition socratique ou psychanalytique, mais de la modestie socratique ou psychanalytique.
Voilà, je fais tout à fait doucement monter la sauce. Je fais, c'est du suspense, c'est un peu dramatisé. On va garder ça pour plus tard, mais on le laisse deviner. C'est-à-dire que là, on va répondre non en partie 2, donc on va critiquer le oui de la partie 1, et on va répondre non de façon très simple, en disant simplement que on fait cette distinction chose naturelle. Là, c'est la cause qui compte. Chose humaine, on cherche le sens. Et on va expliquer en partie 2 comment la science moderne est née de cet arrachement au finalisme d'Aristote. Autrement dit, non seulement la science moderne, elle est apparue comme science moderne en refusant la question du sens, et c'est comme ça qu'elle a progressé et qu'elle a permis de comprendre le monde, ou d'expliquer plutôt le monde. Mais en plus, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'inverse, le frein principal à la science moderne, ça a été la religion qui voulait imposer un certain sens du monde incompatible avec les découvertes scientifiques. Et même, non pas la religion, mais la superstition. Hein ? La superstition, c'est de voir partout un sens dans une nature qui n'est simplement que causale et explicable. Alors, du coup, soyons un peu simples. Lorsque Giordano Bruno a été le premier à dire que l'univers était infini, et qu'il a été brûlé vif sur la place publique en 1600.
Rappelons pour mémoire que Giordano Bruno, effectivement, peut-être spinoziste avant Spinoza, décrivait l'infinité de l'univers, également l'unicité de l'univers, le fait qu'il n'y avait pas de monde au-delà du monde. Si le monde est infini, il est sans au-delà. Et que ses propositions, lui, ont valu effectivement d'être brûlé en place publique, avec un luxe d'ailleurs un raffinement de torture, puisqu'on a, avant de le brûler, on a mis du plomb dans sa bouche, de manière que le plomb fonde en même temps qu'il il est brûlé, de façon qu'il soit brûlé de l'intérieur comme de l'extérieur.
Ah oui. Je ne connaissais pas ce détail atroce.
Mais qui ne manque pas de sens.
Ouais. Mais justement, ça renforce l'exemple. Pourquoi ce supplice ? Eh bien parce que sa découverte scientifique sa mise en évidence scientifique des causes des choses naturelles
et non pas de leur sens.
Était incompatible avec le sens que la religion donnait à notre monde. Que la religion, ou peut-être même la superstition. Mais ça, c'est autre chose. Donc on voit bien que non seulement on répond clairement non, il faut distinguer les choses qui ont du sens, choses humaines, et les choses de la nature qui n'ont pas de sens, qui n'ont que des causes, et c'est déjà beaucoup de les trouver. Et en répondant non, on radicalise la réponse en disant que, pire encore, eh bien, la question du sens a été un frein au progrès scientifique et a empêché le progrès de la mise en évidence des causes. Alors, on peut ensuite poser un certain rapport au monde, aux choses de la nature, qui soit scientifique, qui soit explicatif, et qui est celui de la science moderne. Et c'est alors qu'on revient à la question de Hegel, de Spinoza ou de Durkheim, qui veulent, quelque part, peut-être que pour Spinoza c'est moins radical, mais si, je crois que c'est vrai, qui veulent penser les choses humaines comme des choses de la nature. Et là, effectivement, on le dénonce. On dit qu'il y a là un excès, un abus, et que c'est... quelque chose qu'on refuse.
Que cet abus qualifie d'ailleurs ce qu'on appellera le scientisme.
Voilà, exactement.
C'est-à-dire l'ambition d'une réponse exhaustive, finalement, à tous les phénomènes humains comme naturels.
Voilà, une réponse, précisons bien, en termes d'explication causale et pas d'interprétation ambiguë. Alors, justement, pour bien assumer la partie 2 très simple, la distinction chose humaine, chose naturelle, on peut utiliser Max Weber, qui s'oppose à la sociologie de Durkheim en disant bah « Non, si on veut comprendre les faits sociaux ou les faits humains, il ne faut pas les prendre comme des choses, il faut s'interroger sur le sens et les intentions humaines. » Et c'est ce qu'il appelle la sociologie compréhensive, c'est-à-dire essayer de comprendre les agissements humains par la référence au sens que les hommes donnent à leurs actes.
C'est-à-dire renoncer en somme à une science de l'histoire, comme science exacte, voilà. Mais davantage d'être dans l'ordre effectivement de la compréhension, presque de l'intuition d'ailleurs.
Voilà. Donc renoncer au scientisme, renoncer à cet excès de la pensée qui se croit tout permis dans une sorte d'ambition un peu totalitaire et excessive qu'on trouve chez Hegel, chez Spinoza ou chez Durkheim. Alors,
On va s'engueuler sur Spinoza, mais après l'émission, hein, Charles Pépin. Allez-y.
Alors donc, on répond clairement, il faut vouloir trouver le sens des choses humaines, mais les causes des choses non humaines. Donc la réponse est non. Ayant posé cela, je viens quand même de dire qu'il faut vouloir trouver un sens aux choses humaines. C'est maintenant cela qu'on va questionner en partie 3. Car le fait que les choses humaines ne s'expliquent pas par référence à des causes ne signifie pas nécessairement qu'elles aient un sens. D'où la partie 3, on va cette fois remettre en question le fait que même pour les choses humaines, il faille vouloir leur trouver un sens. D'accord ? Donc la partie 3 est de nouveau une réponse négative, mais encore plus radicale, puisque la réponse négative de la partie 2 visait simplement à exclure les choses naturelles de la question de la recherche du sens, et à préserver, comme le fait Max Weber ou comme le fait la psychanalyse, à préserver la recherche du sens pour les choses humaines. Sauf que maintenant, on colle au libellé. Faut-il vouloir leur trouver un sens ? Et c'est ce qu'on aborde en partie 3, non. Car les choses humaines, elles n'ont pas un sens. Et on va examiner ce qu'on a vu en intro. Soit elles n'en ont pas, soit elles en ont un mais il est introuvable, soit elles en ont plusieurs.
En somme, la différence qu'on peut faire, hein, très simplement, entre la partie 2 et la partie 3, c'est que la partie 2 s'oppose à la possibilité de trouver du sens, et la partie 3 s'oppose au risque qu'il y aurait à trouver un sens, et donc
exactement.
À enfermer les comportements humains dans une signification.
C'est tout à fait bien résumé, où l'on voit qu'on construit un plan à partir des distinctions conceptuelles de l'intro, même quand elles apparaissent toutes petites, comme du sens ou un sens, elles sont en fait énormes et elles justifient un plan. Autrement dit, si vous arrivez à justifier le plan par la référence aux distinctions posées en intro, vous aurez une excellente note. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les élèves n'ont pas envie de faire des distinctions parce que c'est fatigant, c'est dur et il faut le faire soi-même. Et souvent, les élèves ne le font pas parce qu'ils se disent « j'y vais pas y arriver ». Sachez qu'on va vous récompenser d'avoir essayé même si vous n'y arrivez pas. Et on va vous sanctionner de ne pas avoir essayé. Là, on voit bien que le plan, on n'aurait pas pu le construire si on n'avait pas distingué pas de sens, un sens, du sens, plusieurs sens.
Chose humaine, chose naturelle, et ainsi de suite.
Et trouver, aux deux sens du verbe trouver, soit je trouve moi, soit je trouve parce qu'on me le révèle, on me le donne à voir.
Alors, juste une chose, il y a peut-être un terme, alors pour le coup, c'est le terme de vouloir, auquel peut-être on n'a pas suffisamment donné sa chance, mais après tout, c'est peut-être une autre piste, une autre façon de traiter le sujet. Quid, Charles Pépin, de l'hypothèse selon laquelle le fait même de vouloir trouver un sens témoignerait du fait qu'au fond, on sait que les choses n'en ont pas. En somme, alors, ne voudrait trouver un sens que celui qui... En somme, celui qui cherche un sens ou qui voudrait en trouver un témoigne par son activité qu'au fond, il sait qu'elles n'en ont pas. En somme, croirait-on en Dieu si Dieu existait ? C'est-à-dire si le monde était conforme à ce qu'il doit être ou à...
Bien sûr.
Ou, s'il se conformait à une volonté divine qu'on voudrait bonne.
Alors, ce qui est, j'entends très bien ce que vous dites, c'est d'ailleurs un peu la critique de Nietzsche qui dit « On veut trouver un sens parce qu'on sait pertinemment que le monde n'a pas de sens, qu'il est absurde et insensé, mais on a tellement peur de cette réalité qu'on invente un sens pour se rassurer. »
Et que personne ne témoigne davantage du sentiment qu'il n'y a pas de sens que celui qui veut précisément en trouver un.
Donc, si on vous écoute, on va bien avoir un argument supplémentaire pour la réponse réellement négative. Ça tombe bien, on est dans la partie 3 et c'est là qu'on assume la réponse négative. J'avais en fait pensé à cet argument comme l'argument dernier, en fin de partie 3. Mais vous avez raison d'insister là-dessus parce que c'est un bon argument. Dans le même genre, il y en a un autre qui est un peu plus léger à sa façon, qui est de dire, mais si vraiment c'est notre nature humaine, comme on l'a dit en partie 1, d'interpréter et de donner du sens, si c'est si spontané, pourquoi faudrait-il vouloir ? Vous voyez ? Pourquoi ce serait une obligation ? Il faut, si c'est notre nature spontanée, de le faire. Autrement dit, ce serait un peu nier ce qu'on a dit en partie au début, à savoir qu'il est proprement humain d'interpréter, que de dire il faut. Parce que quand on dit il faut, aux hommes, c'est qu'ils n'ont pas envie de le faire, c'est qu'ils ne le font pas spontanément. Mais soyons plus simples, examinons les différents éléments pour répondre clairement non. Il ne faut pas trouver un sens aux choses humaines, parce que peut-être, eh bien, il y a de l'insensé. Il y a de l'absurde. Pensons au théâtre de Beckett, pensons à l'étranger de Camus. Eh bien, c'est justement l'erreur, c'est justement de chercher un sens à ses actes, un sens au fait qu'il ait fait l'amour avec cette femme le lendemain du jour où sa mère est morte, un sens au fait qu'il ait allumé cette cigarette à ce moment-là.
Ça, c'est l'étranger de Camus. Hein, un sens au fait qu'il n'ait pas pleuré à l'enterrement de sa mère.
Exactement.
Or, effectivement, alors, que se passe-t-il dans l'étranger, hein, juste pour mémoire, hein, c'est un homme qu'on condamne à mort, principalement, d'abord parce qu'il a tué, mais surtout parce qu'on déduit les mauvaises intentions qui sont les siennes du fait qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère.
Voilà, et donc on veut donner à cette absence de larmes un sens, et c'est ce sens qui le condamne. Alors qu'on peut dire que cette absence de larmes, soit elle est absurde, elle n'a pas de sens, soit elle en a un, mais on ne peut pas le trouver, nous les hommes, on n'a pas ce pouvoir... on n'est pas des dieux, on ne voit pas ce sens. Soit, et c'est ce que je préfère comme piste, cette absence de larmes, elle a plusieurs sens, au sein desquels il est impossible de trancher. Autrement dit, il n'y a pas de vérité, disait Nietzsche, il n'y a que des perspectives sur la vérité. Les sciences humaines sont des sciences de l'interprétation, c'est-à-dire d'une pluralité d'interprétations.
Il faut ici renvoyer l'auditeur et l'élève au paragraphe de mémoire, hein, on l'a pas sous les yeux, 371 du Gai Savoir. Le monde redevenu infini, car il se prête à une infinité d'interprétations.
Alors, ce propos nietzschéen, qui vise à dire « tout n'est qu'interprétation, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des perspectives sur la vérité, et puis il y en a autant que d'individus », je propose de le nuancer. Un petit peu par la référence à la psychanalyse, qui dit aussi, oui, il y a plusieurs sens dans une souffrance humaine ou dans une joie. Simplement, on va donner plusieurs interprétations, et il y en a certaines qui vont mieux marcher que d'autres. Simplement, ces interprétations, on ne les présente pas dans les termes de délivrer un sens à un acte. On s'ouvre à la richesse du sens, à la polysémie de l'humain, à la complexité du réel humain. Et on peut penser que de vouloir trouver un sens aux choses humaines, c'est rater l'énigme de l'humain, c'est rater l'épaisseur et la complexité d'une vie humaine. En fait, c'est rater l'humain, tout simplement. Vous avez les événements d'une vie psychique, comme les événements historiques. Quand une femme que vous aimez vous sourit, ce sourire n'a pas un sens. Mais de même, la crise de 1929, événement historique, elle n'a pas un sens. Elle a plusieurs sens.
La crise de 2009, tout autant d'ailleurs. Élève Pépin, on arrive au terme de la dissertation. Hein. L'appariteur s'apprête à vous arracher votre copie. Il faut conclure.
Eh bien, on peut conclure. Il faut conclure simplement. Il faut répondre. La réponse est non, on a compris. Non, aussi parce que c'est dangereux. Il faut aussi les mettre en partie 3, on n'a pas eu le temps, c'est dangereux. Souvenez-vous, si on est sûr de l'avoir trouvé, on peut tomber dans le fanatisme, l'intégrisme, le dogmatisme. Et si on veut absolument le trouver et qu'on ne le trouve pas, on peut aussi tomber dans la dépression ou le désespoir. Donc on a plein d'arguments pour dire non. Le dernier argument, c'est que si c'est si naturel pour nous d'interpréter, alors ça n'est pas une obligation, il n'y a pas de « il faut » et il n'y a pas de « vouloir » si ça se fait spontanément. Au total, non, il ne faut pas vouloir trouver un sens à toutes les choses, parce que il faut vouloir trouver les causes des choses non humaines, ainsi va la science moderne, et parce que, concernant les choses humaines, il ne faut pas vouloir trouver un sens, mais s'interroger sur leur sens, sur leur pluralité irréductible de sens, qui fait la beauté et la complexité des vies humaines.
Je t'apprendrai l'eau, la lumière, l'arbre, la source, le torrent, le secret des vignes, des pierres, le bruit du vent. Toi, tu m'apprendras la panthère, le chat, le renard.
Un grand merci, Charles Pépin. Merci d'être venu nous voir. Donc, faut-il merci vouloir beaucoup. Trouver un sens à toute chose ? C'était le sujet du jour. Je rappelle que vous enseignez en terminale au lycée d'État de la Légion d'honneur de Saint-Denis, que vous dirigez la collection Philosophie Haute Tension chez Hachette Littérature, oui. Que vous êtes rédacteur en chef, mes compliments, du hors-série du bac philo, excellent hors-série du bac philo de l'excellent Philosophie Magazine, dont France Culture et les Nouveaux Chemins de la Connaissance sont partenaires pour cette édition 2009 du bac philo. C'est donc de la question de savoir s'il faut vouloir trouver un sens à toute chose qu'on a parlé aujourd'hui. On aurait pu y répondre différemment. L'essentiel est d'y répondre de façon cohérente.
Tu m'apprendras tes yeux de fleurs, tes bras.
Suite à un demain de cette semaine sur le bac philo, je recevrai Nicolas Franck, qui enseigne en terminale au lycée de la Folie Saint-James de Neuilly-sur-Seine et qui viendra accompagné d'une vingtaine de ses élèves pour traiter le sujet suivant : une conduite désintéressée est-elle possible ? À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher, à la réalisation Cédric Ossir, et au travail de fond, Geneviève Méric, Adèle Van Red, Jennifer Murzo, Igor Kortelitsa, France Culture, 17h50, tout de suite notre grand pourvoyeur de sens, Albert Jacquard.
Les interdits, je serai la fenêtre ouverte, et toi.